Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Incontournable e-commerce en cette période de pandémie ou quand il y a confinement, les boutiques non essentielles sont priées de fermer. Pour un géant américain comme Amazon, la période est riche de promesses. Le leader mondial a annoncé l'embauche de 175 000 personnes dans le monde. Bienvenue dans le futur où les colis sont livrés en 30 minutes par des drones de basse altitude. Les ingénieurs maison y travaillent déjà. En Angleterre, des engins livreurs sont en tout cas une réalité dans le quartier de Greenwich, dans le sud-est de Londres, où ils sont testés, Marie Billon.
Il n'a pas encore de petit nom, mais vous pouvez l'appeler Starship, du nom de la compagnie qu'il a créée, Starship Technologies. Ce sont les fondateurs de Skype qui ont imaginé ce petit robot autonome de la taille d'un petit chariot qui évolue à ras du sol. Un coffre qui peut contenir deux ou trois sacs plastiques de taille moyenne et qui se promène sur six roues. Mais il est équipé de neuf caméras et d'un système GPS qui lui permet d'être 100% autodépendant. Il se promène donc tout seul dans les rues du quartier de Greenwich, dans le sud-est de Londres, depuis le mois de mars. On peut le voir s'arrêter au passage piéton ou contourner les obstacles sur le trottoir, car c'est là qu'il se déplace, pas sur la route. C'est qu'il est lent, ce petit robot, justement par sécurité. Il n'a pas pour but de remplacer un livreur. Sa capacité de transport est trop petite, mais il pourrait améliorer la logistique du dernier kilomètre, la dernière étape de la livraison d'un paquet, le porte-à-porte. Grâce à une application, c'est le client qui choisit à quelle heure il veut être livré et il peut suivre les pérégrinations du robot sur son smartphone. L'acheteur a aussi un code d'accès qui lui permet d'ouvrir le coffre pour prendre son sac. Les fondateurs pensent que ce petit robot sera surtout utile pour des livraisons qui prennent moins de 30 minutes et des petits colis ou de la nourriture provenant d'épiceries ou de restaurants locaux. Des essais vont être faits ailleurs au Royaume-Uni, mais ses créateurs sont plutôt confiants. Les passants regarderont ce petit robot lent et poli destiné à céder le passage d'un œil plus favorable, voire amusé, qu'un drone volant au-dessus de leur tête.
Ouh, ça c'est un super prix.
Ça, c'est un super prix.
Oh, ça, c'est un super prix.
Ah, c'est un super prix.
C'est ce que je disais.
Amazon.
La moitié du e-commerce outre-Atlantique est entre les mains du leader d'Amazon, Jeff Bezos. 22% en France. Une mainmise qui ne laisse personne indifférent. Pour répondre à la demande, on construit donc d'immenses entrepôts logistiques. Mais dans l'Hexagone, la multinationale se heurte à l'opposition conjuguée des altermondialistes, des écologistes ou des commerçants attachés à la libre concurrence, tout simplement. C'est le reportage dans l'est de la France, en Alsace, de Robin Dussen.
Alors là, on sort d'Ensisheim et on va en direction de le parc d'activité de la plaine d'Alsace.
Cette zone artisanale, Roland Braun la connaît bien. Le 2 octobre dernier, le militant écologiste non violent était déjà là pour planter un arbre, une action symbolique pour dénoncer le projet d'implantation d'un entrepôt de e-commerce, sans doute attribué à Amazon. D'une surface de près de 190 000 m², le terrain choisi par le GAFA est idéalement situé le long d'une autoroute à 15 km du Rhin et à une quarantaine de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Là maintenant, le terrain est nu. Il y a cette butte qui sépare le terrain de la route. Je ne sais trop pour quelle raison. Ils sont en train de faire du terrassement. Ils posent des câbles électriques et des choses comme ça. Mais théoriquement, ils n'ont pas encore le droit de commencer les travaux.
Et lorsqu'il s'agit de dire non à Amazon, les opposants ont des arguments, comme Patrick Franck, membre des collectifs Alternatiba et ANV COP21.
Ça représente tout ce qu'on doit abandonner, hein. Je veux dire des excès dans la consommation, les excès dans les déplacements, dans les transports inutiles. Le monde d'avant, ça représente le monde d'avant. Et moi, je suis très inquiet pour l'avenir de mon fils, l'avenir des générations à venir, tout simplement. Parce qu'on ne prend pas du tout le chemin qu'on devrait prendre pour avoir une planète viable. Voilà.
Et puis, ça enrichit encore et encore un seul bonhomme, qui s'appelle Jeff Bezos, qui a d'autres considérations.
Stéphane Zouter, de l'association Climat Trois Frontières.
il voit l'espace, il va préempter aussi les étoiles, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, même sur Terre, ça ne lui suffit pas, quoi, on a l'impression.
À Ensisheim, la bataille contre Amazon n'est pas qu'idéologique, puisqu'elle a déjà lieu sur le terrain administratif. Si le maire a signé le permis de construire en juillet, les opposants ont déposé, avec l'aide de plusieurs ONG, un recours pour repousser de 2 mois le début des travaux. À 60 km au nord, à Dambach-la-Ville, un autre projet d'entrepôt Amazon suscite une levée de boucliers. Mais cette fois-ci, le projet est moins avancé. Une aubaine pour les militants qui poussent les élus de la communauté de communes à renoncer, même si certains citoyens déplorent le manque de transparence.
On parle de plus en plus de démocratie participative. Là, on en est loin. Les réunions pour discuter d'Amazon au niveau de la communauté de communes se sont faites à huis clos. Donc à partir du moment où c'est fait à huis clos, on peut s'interroger sur ce qu'a pu se dire.
Membre d'une association locale de protection de l'environnement, Jean-Philippe Langrand a rejoint le Chaudron des Alternatives, un collectif qui essaie de ratisser le plus large possible auprès des anti-Amazon.
Si vous vous retournez derrière cette plaine de maïs, vous avez le Piémont viticole. Et c'est aussi un des points qui est à évoquer, c'est-à-dire que le bâtiment qui est prévu est un bâtiment qui fait le double de hauteur de ceux qui sont là présents. Vous avez un paysage exceptionnel, un paysage de vignes avec la forêt au-dessus. Et depuis les balades qu'on pourra faire dans le vignoble ou même en forêt quand vous montez sur les sommets, ce que vous verrez, c'est cette espèce de verrue que constituera cet entrepôt logistique Amazon.
En plus des militants traditionnels de gauche et écologistes, le Chaudron des Alternatives a reçu le soutien de la Confédération des commerçants de France. Selon une note de l'ancien secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, un poste créé chez Amazon ferait perdre au commerce de proximité le double d'emplois.
Bonjour.
Bonjour.
Installé depuis 12 ans dans le centre-ville de Célestat, Aurélie Sutter propose bijoux, accessoires, vêtements et thé en commerce équitable. Alors quand elle a pris connaissance via une pétition en ligne du projet d'Amazon de s'implanter dans la région, la commerçante a immédiatement souhaité apporter son soutien au Chaudron.
On n'a pas envie de rester les bras croisés quand on entend ça. C'est tout à fait à l'encontre de mes convictions et de convictions de beaucoup de gens qui viennent ici. Et c'est très important pour moi de m'investir, d'essayer de trouver des moyens pour sensibiliser les gens à ce genre de choses. Ça tue les liens, les rencontres. Ce qui fait le cœur de mon métier, je pense que c'est vraiment ça. C'est très important d'avoir ces petits commerces parce qu'on fait le lien, je pense. Et c'est important que ça reste et que ça puisse rester.
Et à court terme, Amazon promet la création de 1000 emplois, 500 sur chacun des sites.
Et pourra-t-on un jour taxer normalement les GAFA, Google, Amazon et autres Facebook? La France le souhaite et applique déjà cette fameuse taxe GAFA, mais au niveau européen, le projet piétine. On estime pourtant qu'en moyenne dans l'UE, les entreprises du numérique sont soumises à un taux d'imposition 2 fois moins élevé que celui qui s'applique aux entreprises traditionnelles. Pourquoi? C'est la question que nous avons posée à notre correspondante à Bruxelles, Lex Milota. Comment expliquer une si faible imposition?
Eh bien, chaque État membre est souverain en ce qui concerne sa politique fiscale. Certains choisissent de proposer une fiscalité particulièrement avantageuse pour les entreprises afin de les attirer sur leur territoire. On peut citer l'Irlande, où se trouvent les sièges de Facebook et Google, ou encore le Luxembourg et Amazon. Les GAFA peuvent donc établir le siège de leur société dans un État à la fiscalité attrayante, même si leurs activités ont lieu de fait un peu partout, comme il s'agit de services sur le web. Le taux d'imposition sur les sociétés est de 12,5% en Irlande, par exemple, contre 33% en France.
Alors Lexmi, pourquoi ce projet de taxe traîne-t-il?
Le projet remonte à 2018. Les ministres de l'économie français et allemand souhaitaient une imposition plus juste, plus harmonisée des services numériques. Il s'agissait de taxer à 3% et dans chaque État membre, le chiffre d'affaires de ces sociétés, 3% du chiffre d'affaires et non des bénéfices, comme c'est généralement le cas dans la fiscalité d'entreprise, d'où ce nombre en apparence faible, mais qui peut rapporter beaucoup. On taxerait ainsi plusieurs activités, comme la revente de données personnelles ou la vente de publicités ciblant des profils d'utilisateurs en ligne. Pourquoi 3% et pas plus ou moins? C'est l'arbitrage qui a été décidé politiquement, m'explique un fiscaliste de l'association ATTAC, l'association pour la justice fiscale, sociale et écologique. Ce taux permet de rapporter des centaines de millions d'euros par an sans pour autant totalement froisser les GAFA.
Et donc ce projet de 2018 n'a pas été adopté?
Non, finalement, l'Allemagne a craint des représailles américaines sur ses exportations. De plus, les États membres qui accueillent ces géants du numérique sur leur territoire se sont prononcés contre. Ils ne voulaient pas perdre ces pourvoyeurs d'emplois et de revenus. Et en matière de fiscalité, il faut l'unanimité des États membres pour adopter un projet.
Et aucune chance donc d'aboutir à cette taxation des GAFA un jour ?
Si l'accord ne peut pas être européen, il pourrait être international. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a obtenu un accord de principe en 2019. Mais depuis, les États-Unis ont déclaré vouloir une pause dans les négociations pour pouvoir se concentrer sur la gestion de la pandémie de coronavirus.
Mais cette crise du Covid-19 pourrait quand même changer la donne, Lakshmi.
Oui, car l'UE a dû mettre en place un plan de relance et emprunter 750 milliards d'euros face à la crise économique due à l'épidémie. Et pour rembourser cette somme, les Européens ont reparlé cette fois d'une redevance numérique. La date évoquée pour une entrée en vigueur est celle de janvier 2023. Reste à savoir si cette pression économique fera avancer les choses et changer d'avis certains États membres jusque-là réticents. En plus de représailles sur les exportations européennes, certains craignent que cette taxe ne retombe sur les consommateurs eux-mêmes. Il faut aussi savoir que la France a décidé de mettre en place cette taxe GAFA de 3% à son niveau. Elle a rapporté 350 millions d'euros en 2019 et 500 millions en 2020.
Merci beaucoup, Lakshmi Lotha à Bruxelles. Et la concurrence viendra-t-elle d'entreprises nationales en Pologne? La société Allegro n'est pas appelée l'Amazon polonais pour rien. Elle vient de rentrer à la bourse de Varsovie et est devenue immédiatement la société la plus chère du pays. Avec 12 millions de clients réguliers, elle entend bien tenir tête à Amazon. Mais jusqu'au quand? À Varsovie, Sarah Bakaloglou.
À son entrée à la bourse de Varsovie, les actions de l'entreprise Allegro ont bondi de 51%, un début plus que réussi donc, pour une entreprise née dans un garage d'une ville de l'ouest de la Pologne, Poznan. Dans les années 90, un jeune néerlandais débarque par hasard en Pologne et veut créer une entreprise comme eBay qui l'admire. C'est chose faite en 1999 et 20 ans plus tard, le succès est là, un chiffre d'affaires de 535 millions d'euros et un parcours salué par le ministre du Travail polonais en octobre. Ce dernier s'est félicité d'une bonne nouvelle pour nous tous lors de l'entrée en bourse d'Allegro. En ce moment si difficile pour la Pologne et l'économie mondiale, le rôle de l'industrie de l'e-commerce a pris une importance significative, a-t-il déclaré. Car pendant la crise du coronavirus, Allegro a vu ses ventes augmenter de 52% pour les 6 premiers mois de 2020. Sur son site internet, ce géant du e-commerce propose des produits vendus à la fois par des magasins en ligne, mais aussi par des particuliers. Le site compte 12 millions d'acheteurs réguliers pour un pays de 38 millions d'habitants. Pour son PDG, le français François Nuit, la réussite d'Allegro tient en son système innovant. La quasi-totalité des produits vont directement du vendeur à l'acheteur sans passer par des entrepôts ou des plateformes. Mais la concurrence pourrait bien arriver prochainement. L'américain Amazon serait en discussion avec le service postal public polonais qui s'occuperait des livraisons. Pour l'instant, les Polonais peuvent commander sur Amazon, mais doivent le faire via des branches étrangères, ce qui augmente le coût de livraison.
Au début, l'Europe était tout près.
وأنا هاي أول مرة بحياتي يعني أشوف هذا البحر وأشوف هذا البلم يعني من كثر الناس اللي ويانا قلت هذا البلم شلون يعني نركب به يعني ويكفينا هذا المكان.
Open arms, open arms, de colons, me recibes.
Et pour notre chronique documentaire, nous partons en Espagne où le film Cartas Mojadas a connu un beau succès en salle. Cartas Mojadas, ce sont ces lettres de migrants qui ont pris l'eau en Méditerranée et qui ne trouveront jamais leur destinataire. La réalisatrice Paola Palacios a choisi de nous parler de tous ceux, les vivants et les morts,
qui ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Élise Gazangel l'a rencontrée à Barcelone.
La Méditerranée est le point de départ du documentaire Cartas Mojadas de Paula Palacios, cette mer que traverse chaque année 110 000 migrants. Mais le film nous entraîne aussi sur Terre, en Libye, le point de départ du périple, et en Europe, que certains n'atteindront jamais.
Au début, l'Europe était tout près. On l'appelait Lesbos. On nous a dit qu'une fois arrivé là, il nous serait facile de rejoindre l'Allemagne. Ma mère et moi avons tenté cette route. Comme d'autres mères et leurs filles avant nous.
La voix off de ce documentaire, c'est d'ailleurs celle d'une enfant naufragée, forcément fictive, qui n'a pas eu la chance d'être sauvée par les ONG. Paola Palacios a eu l'intuition de ce dispositif narratif au contact de la réalité, sur le bateau de l'ONG catalane Open Arms, alors qu'il venait de recevoir le signalement de deux embarcations à la dérive.
On est sorti dans le bateau rapide qui est à l'Open Arms pour aller à la rencontre de ces deux bateaux de migrants, mais on n'a trouvé qu'un seul. Et c'est là où je me suis dit, ben, s'il y a un seul, c'est que l'autre, évidemment, est en train de se noyer, mais dans ce même moment. Et là, ça m'a fait quelque chose et je me suis dit, c'est de là où doit venir la voix qui nous parle tout au long du film. Une voix subjective, une voix de quelqu'un qui a vécu tout ça mais qui n'est pas arrivé.
Durant cette mission de janvier 2018, 550 personnes seront sauvées du naufrage et devront attendre des jours avant d'obtenir de l'aide dans des conditions climatiques difficiles. Mais tous ne survivront pas.
And now we have on board 551 persons and we have also two dead bodies, one baby and one young man.
Pour la réalisatrice, montrer les morts est un parti pris assumé.
C'est important parce que les corps qui arrivent en Europe, c'est des corps qui vont compter dans les listes qu'on a dans les bureaux européens, où on va parler de combien de personnes sont mortes en Méditerranée cette année. Mais les personnes qui meurent à la mer ne comptent pas, on n'a pas une façon de les compter.
Filmer l'ONG et son bateau rouge, filmer aussi le bateau gris des gardes-côtes libyens. La réalisatrice a obtenu l'autorisation de tourner sur leur navire militaire qui ramène les migrants en Libye. Un tournage inédit qu'elle utilise comme une dénonciation de la responsabilité européenne et des accords entre la Libye et l'Italie.
Moi, je l'ai rencontré à Rome, les colonels libyens. Lors d'une réunion qu'il avait avec les militaires italiens. Donc, du moment qu'on prend ça, il s'est limité à montrer ce qu'on leur a demandé, nous, Européens, de faire. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne me laissent pas le montrer.
En Libye aussi, sur la terre ferme cette fois, après 9 mois d'attente de visa, Paola Palacios a pu rendre compte de l'horreur des tortures de ces migrants dans la petite ville de Beni Walid.
C'est là qu'il a couché, il a tapé sur mon bras, c'est sur mon bras, puis il a commencé à me frapper. J'ai saigné, j'ai perdu mon bébé.
De l'autre côté de cette mer cimetière, le documentaire nous montre aussi la réalité de ceux qui ont réussi à atteindre leur but, l'Europe, Paris.
J'ai rencontré que les migrants étaient en plein milieu de Paris, en train de dormir sous la neige, sous la pluie. Et puis, j'ai trouvé que c'était très violent, tout en sachant d'où ils venaient, puisque je venais de vivre à bord de l'Open Arms, j'ai trouvé ça très violent.
Malgré la pandémie et les restrictions, le documentaire connaît un grand succès en salle en Espagne. La réalisatrice aimerait aussi qu'il puisse être vu par les décideurs européens, dont la politique migratoire actuelle est, dit-elle, meurtrière.
Cartas Mojadas, un documentaire de Paola Palacios qui a connu un beau succès en Espagne et qu'on aura peut-être la chance de découvrir sur les écrans français après le confinement. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.